Et j'aimerais qu'on puisse voir l'expérience de cette femme, eh bien, qui aussi en son temps a déposé ses fardeaux aux pieds du Seigneur. La lecture se trouvera dans Luc chapitre 13, du verset 10 jusqu'au verset 13. Nul besoin d'aller plus loin et découvrir ce qu'a été l'expérience de cette femme courbée. Luc chapitre 13, du verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains et à l'instant, écoutez bien, à l'instant, elle se redressa et glorifia son Dieu. Amen. Et amen. Nul besoin d'aller plus loin, juste quatre versets pour bien se replonger dans cette histoire merveilleuse de cette femme. Femme qui certainement était juive et qui avait l'habitude de se retrouver, de se rassembler comme nous ce matin dans une synagogue. À l'époque, c'était ce lieu où les juifs avaient l'habitude de pouvoir se rassembler pour célébrer leur culte à Dieu. Et cette femme, eh bien, nous dit la parole de Dieu, était courbée et infirme depuis 18 ans. Est-ce que vous réalisez 18 ans. 18 ans de souffrance. 18 ans de peine, de désespoir peut-être. Mais encore ce jour-là, eh bien, cette femme eh bien, s'était rendue dans cette synagogue. Elle se disait peut-être, eh bien, aujourd'hui, eh bien, une grâce me serait faite. Je ne sais pas si elle était au courant que ce jour-là, c'était Jésus qui apportait le message. Et il y avait forcément un rendez-vous eh bien, avec cette femme. Parlons en quelques instants eh bien, de la situation de cette femme. La Bible nous dit eh bien, qu'elle était possédée d'un esprit mauvais, qui la maintenait courbée depuis 18 ans. J'aime à le dire, eh bien, il ne faut pas de suite s'empresser à dire que toutes les infirmités, toutes les maladies qu'on pourrait avoir sont d'origine démoniaque. Mais en tout cas, pour revenir au cas de cette femme, eh bien, et le verset 11 le confirme, pour elle, sa maladie était liée à une activité démoniaque, une influence, une oppression sur eh bien, son corps, si bien qu'elle était courbée. Et cela nous parle de la méchanceté du diable. Vous savez, j'aime à le dire également, le diable, il n'a pas d'amis. Et il n'a que mépris, il n'y a que haine pour toute l'humanité entière. Et quand il arrive à bien pouvoir à bien s'accaparer d'une vie, c'est pour la détruire. Et d'ailleurs, Jésus l'a si bien cité en disant dans Jean chapitre 10, verset 10, peut-être qu'on aura à bien derrière mon dos le verset correspondant. Oui, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et dès qu'on lui laisse une porte entrouverte, le diable, il vient et tel un voleur, il vient dérober, enlever tout ce qui peut être joie, tout ce qui peut être paix. Il vient égorger, mais il n'en a pas fini. Il vient pour détruire. Mais béni soit Dieu, ce verset, on peut le séparer en deux parties. Jésus va dire, puisque c'est lui qui parle au travers de ce verset, il dit « Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ce matin, Jésus est là en ce lieu. Il est venu pour que tu aies de l'abondance. Il est venu peut-être pour stopper l'activité ou l'oppression eh bien, qui pourrait se trouver sur ta vie. Revenons encore eh bien, à cette femme. Et je dis que cette femme était physiquement courbée, la Bible le dit. Elle était littéralement en position à regarder constamment le sol, un sol poussiéreux. Voilà l'image qu'elle avait au quotidien pendant 18 ans. Imaginez-vous eh bien, cette femme. Elle est là constamment. Et croyez-moi, l'avenir qu'elle avait, où eh bien, elle avait du mal à se projeter dans cette situation. Je ne sais même pas comment elle pouvait même travailler. Peut-être était-elle amenée à pouvoir mendier. Était-elle mariée? Je ne sais pas. Le texte ne le précise pas. Mais on pourrait eh bien, s'imaginer toutes sortes de situations. Cette femme, elle était littéralement eh bien, en équerre, à regarder constamment le sol. Et je crois que la vision qu'elle avait de sa situation et de son devenir était à l'image de ce sol poussiéreux qu'elle était contrainte de regarder jour après jour, parce qu'elle était courbée. Combien de personnes aujourd'hui sont courbées? Oh, peut-être pas physiquement, mais combien de personnes sont courbées spirituellement? Il y a des personnes qui peuvent être courbées de par la haine et la vengeance qui est dans leur cœur. On peut s'imaginer qu'on peut être courbé par une tristesse liée peut-être à un malheur qui nous a frappé dernièrement ou bien une souffrance. On peut être aussi courbé par un mal-être inexpliqué. Il y a même des chrétiens qui ont des mal-êtres. Ils sont là et même ce matin, ils n'ont pu se réjouir. Même au travers de ces magnifiques chants, il y a un mal-être qui est là. Et ça dure depuis des mois et des mois et on ne peut pas l'expliquer. Et spirituellement, à cause de cela, on est courbé. On peut être courbé par l'angoisse ou la peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir ? Jusqu'à être empêché de dormir le soir. Courbé par des vices innommables qu'on n'oserait même pas partager. Courbé également par la culpabilité d'un sombre passé. Certains sont courbés parce qu'ils sont fatigués de la vie. Ils sont là, présents, physiquement, mais intérieurement, il y a cette lutte, cette souffrance qui est là. Mon ami, je veux te dire que Dieu, il te voit et il te connaît. Et s'il te désigne et si tu te reconnais au travers de ces choses, je veux vraiment t'encourager et te dire que le Seigneur, il a le pouvoir. Alléluia, de te redresser. Lui a le pouvoir. Quand je lis ce texte au verset 11, et voici, il y avait une femme possédée, oui, d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée, et il est précisé, et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et on peut supposer que cette femme, quelque part, a essayé un moment de se redresser par ses propres forces, se dire, ma foi, c'est peut-être dans ma tête. Allez, Joël. Relève-toi, redresse-toi. Je prends mon nom pour ne pas citer un de vos noms. Mais tous ses efforts étaient vains. Elle ne pouvait pas du tout se relever. Elle a peut-être essayé à frapper à quelques portes de spécialistes ou de médecins, ou même des psychologues de l'époque, pour l'aider à se redresser. Mais tout cela était vain. Personne ne pouvait la délivrer de son infirmité. Et cela me fait penser quelque part à un autre mal, pire que ce que connaissait cette pauvre femme. Et ce mal, vous le connaissez par ce nom, le péché. Et le péché a courbé, non pas physiquement seulement, mais spirituellement, le cœur de tout le genre humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ce mal qu'est le péché, sous le lourd fardeau du péché, nous sommes spirituellement courbés. C'est le grand roi David qui a dit un jour... C'est quelques paroles que je vous propose de lire dans Psaume chapitre 38, les versets 4 à 7. Psaume chapitre 38, les versets 4 à 7. Nous lisons ensemble. Psaume chapitre 38, versets 4 à 7. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Regardez ce qu'il dit, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Et mes plaies sont infectes et purulent par l'effet de ma folie. Il va rajouter, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Et au travers de ces versets qu'on vient de lire, qui sont parlantes, est-ce que peut-être quelqu'un pourrait s'y retrouver ? Je voudrais te dire de la part de Dieu, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Seigneur, il voudrait te relever. Il voudrait te redresser. J'aime beaucoup ce passage dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce sont les paroles bienveillantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus désire vous secourir. Tout comme il est venu finalement au secours de cette femme, et on y arrive, on va laisser là le cas, la situation de cette femme, pour peut-être s'arrêter et observer quelles ont été les actions, les attitudes en retour de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard de cette femme courbée. Ce sont des actions que le Seigneur voudrait accomplir ce matin même pour ta propre vie. Alors j'observe quand on lit ces quatre versets que Jésus, alors qu'il était en train d'enseigner, la première action qu'il a portée sur cette femme, la Bible nous dit qu'il vit cette femme. Vous savez, on est un certain nombre ce matin, mais je peux te dire d'une manière particulière que le Seigneur, il te voit. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Et puis nous, on arrive peut-être à s'arrêter à l'apparence des personnes, etc. Mais le Seigneur, il va au-delà de cela. Il sait lire ton cœur et il sait voir également la souffrance des cœurs. Et tu peux être mal à l'aise, tu es venu et tu ne sais même pas comment et de quelles circonstances. C'est la grâce de Dieu qui t'a attiré ce matin. tu vas le comprendre. Jésus te voit. Et croyez-moi, Jésus n'est pas insensible à notre souffrance. Un passage aussi que j'aime beaucoup dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 9 et le verset 36. Il nous est dit la chose suivante, voyant la foule. C'est lui qui a créé les yeux. Il voit, et il voit parfaitement. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et de la même manière ce matin, avec plein de compassion, le Seigneur, il te voit. Il n'est pas indifférent à ta peine, peut-être même aux larmes que tu es en train de verser. Jésus, en te voyant, est ému de compassion. Et même mieux, ce matin, Jésus, il te cherche du regard. Il te cherche du regard. Tu as voulu te cacher de tes frères, de tes sœurs, un temps soit peu, mais je peux te dire que Jésus n'a eu de cesse de te chercher du regard. Et quand eh bien, on laisse ce contact visuel se mettre en place entre Jésus et nous, eh bien, comme ils l'ont chanté tout à l'heure, je le cite, « En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. » Lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Amen. C'est encore le roi David qui a dit, psaume chapitre 25, les versets 15 à 18, ne le cherchez pas. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Cet homme avait la foi, il connaissait son Dieu. Et il a dit, eh bien, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Puisse cette prière être la vôtre ce matin. Criez à Dieu. La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel il l'entend. Et croyez-moi, on peut avoir une carte à jour. Une carte de membre à jour, on peut être chrétien depuis des années et connaître des moments de difficulté, de souffrance, où on est spirituellement courbé, on est fatigué même de vivre et de combattre l'adversité. Ce matin, le Seigneur, il veut alléger ton cœur, il veut te faire grâce. Jésus donc vit cette femme, mais Jésus également lui adressa une parole bienveillante, une parole d'autorité, une parole de victoire. Après le contact visuel qu'il a eu avec cette femme, Jésus a bien voulu aussi un contact verbal. Rappelez-vous dans quel contexte eh bien, se passe cette histoire. Nous sommes dans une synagogue. La parole est annoncée comme elle est annoncée présentement. Mais à un moment particulier, Jésus il s'arrête. Et je m'imagine cette foule qui est en face de Jésus, se posant la question intérieurement, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Les yeux s'écarquillent, les oreilles eh bien, augmentent de surface. Qu'est-ce qu'il va faire? Et à un moment donné, Jésus, certainement qui pointe du doigt cette femme que tout le monde connaissait, c'est la femme courbée. Depuis 18 ans, elle fréquentait cette synagogue. Et Jésus, d'une manière personnelle, va lui apporter une parole personnelle. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire ça. Vous savez, on ne peut pas tout retenir d'un message. Mais je peux vous dire de la part du Seigneur, si notre cœur est ouvert, Jésus est capable de vous donner même un mot qui est capable de vous apporter une pleine guérison. La Bible dit, il envoya sa parole et il est guéri. Et quelquefois, eh bien, nos cœurs sont fermés. Quelquefois, eh bien, on est là, oh, ben, je connais cette histoire, etc. Et notre cœur est fermé. Mais peut-être que le Seigneur veut te dire quelque chose ce matin. Jésus s'est adressé à cette femme et à un moment donné, il va lui dire, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il n'y a que Jésus qui pouvait dire ça. Seul lui a le pouvoir de dire ces genres de choses. Une parole empreinte d'autorité, une parole de vie, une parole d'espoir pour cette femme. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et nous le savons, c'est écrit, Jésus a dit, « Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. » Veux-tu être libre ce matin? Veux-tu déposer ce fardeau? Ça a été vraiment à propos, on ne s'est pas dit les mots. Je dépose à tes pieds toute forme de fardeau. Où tu vas avec ce fardeau, mon frère, ma sœur? Quelle est cette souffrance que tu mènes? Elle, c'était 18 ans, mais peut-être toi, c'est encore plus longtemps. Aujourd'hui même, Jésus veut que tu déposes ces choses à ses pieds. Jésus est venu dans le monde pour délivrer l'homme de la puissance de Satan. Ça a été rappelé au travers d'un don spirituel. Et le Seigneur lui-même va relire cette déclaration de l'Ancien Testament dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance, et c'était le cas de cette femme, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et cette année de grâce, elle continue encore. Cette année de grâce, elle a pris effet, elle a trouvé son apogée au travers du sacrifice de Jésus, accompli sur la croix. Son sang a coulé, un homme est mort à notre place, et plus qu'un homme, Jésus, le Fils de Dieu. Et en vertu de ce sang qui a coulé, on peut être pleinement délivré, pardonné de nos péchés. Et la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été délivrés, guéris. C'est à la croix que Jésus s'est chargé de toutes nos iniquités. Toutes tes peines, tous ces fardeaux que tu portes, c'est à la croix Jésus, il a pourvu pour que tu sois réellement libre ce matin. Veux-tu te tourner vers lui? Veux-tu l'accepter? Veux-tu implorer sa grâce? Nous le savons, Jésus n'est pas resté sur la croix, encore moins dans le tombeau le troisième jour après sa mort. Il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, il est là présent. Je n'ai aucun doute sur la présence de Jésus. Il suffit tout simplement de l'accepter, de le croire, parce que Jésus, lui, ne ment pas. Contrairement aux hommes qui peuvent être versatiles, Jésus, ce qui sort de sa bouche, reste éternellement. Et il a dit que deux ou trois sont assemblés en ce lieu. En sa présence, il est présent et au milieu de nous. Jésus donc vit cette femme. Jésus lui adresse une parole de délivrance, une parole d'autorité. Et je voudrais terminer en disant que Jésus, il va même plus loin. Il ne se contente pas seulement d'un contact visuel avec vous. Il ne se contente pas seulement d'un contact verbal avec vous. Il veut un contact physique. Il veut un attouchement. La Bible nous dit qu'il lui imposa les mains. Et ce matin, Jésus veut spirituellement vous toucher. Il vient au-devant de vous. Et il voudrait que vous puissiez sortir de ces lieux complètement délivrés, complètement affranchis, libérés de tout fardeau, parce qu'on est bien. Eh bien, quand on n'a plus ces fardeaux, on est libre, on peut rire, on peut se réjouir. Il lui imposa les mains. Vous savez, quand on impose les mains, il n'y a pas de fluide, il n'y a pas de choses magiques ou autres. D'ailleurs, nous condamnons la magie. Non, lorsqu'on impose les mains, il y a comme pour nous un enseignement, c'est un geste symbolique d'identification entre deux personnes. Et c'est le moyen aussi où on transfère la grâce de Dieu, alléluia, sur des personnes qui sont dans le besoin. Et Jésus voulait également ce contact avec cette femme aux yeux de tous qui étaient là présents. Cette femme courbée, venant peut-être au milieu de la foule au devant de Jésus, ou peut-être même c'est Jésus qui allait au devant de cette femme pour lui imposer les mains. Et à l'instant, voilà ce que dit la Bible. J'aime beaucoup ce petit mot. À l'instant, un claquement de doigts, le Seigneur, il opère le miracle. Jésus peut vous délivrer instantanément. Vous savez pourquoi? Rien n'est impossible à lui. Il y a aussi ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Il nous est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et en effet, à l'instant, la femme courbée se redressa. Eh bien, pour faire quoi? Pour glorifier Dieu en retour. Le Seigneur l'avait redressée, elle qui, ne voyait qu'un sol poussiéreux, s'est mise non seulement à se redresser et à regarder d'une manière horizontale. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Tant qu'on n'est pas pleinement guéri intérieurement, on ne peut pas pleinement bénir le prochain. Si moi-même, je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre. D'autant plus que le Seigneur nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu portes des fardeaux, tu ne pourras pas pleinement être efficace. Et tu as besoin de te laisser être redressé pour voir d'une manière horizontale ton prochain et le bénir, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais cette femme, elle ne s'est pas seulement redressée pour voir d'une manière horizontale son prochain. Elle a pu miraculeusement lever la tête vers le ciel. Et pour faire quoi? Pour glorifier le Seigneur. Vous savez, quand Jésus nous a touchés, on ne cherche à faire qu'une seule chose, à glorifier le Seigneur. Et c'est pour ça, au beau milieu de ce temps de fête de la Pentecôte, plus que jamais, le Seigneur nous rappelle qu'il a envoyé son Saint-Esprit afin que nous soyons zélés pour parler et témoigner de Jésus comme l'a fait ses frères et ses sœurs au travers du chant. Parce qu'il y a plusieurs manières de transmettre le message de l'Évangile. Fais-le avec toutes tes tripes, mon frère, ma sœur. Fais-le avec joie, parce que c'est la réalité. C'est ce dont les gens ont besoin autour de nous. Dieu est vraiment celui qui redresse les situations. C'est le cas de le dire. Cette femme qui était courbée, eh bien, s'est vue littéralement redressée. Que Dieu soit béni. Jésus est présent et au milieu de nous ce matin. Est-ce qu'on peut peut-être baisser les têtes, les yeux, et on va implorer sa grâce. Peut-être que la chorale pourrait venir à ce moment-là et peut-être reprendre ce merveilleux chant « Je dépose à tes pieds ». Tout ce qui peut. Et que le Seigneur puisse apaiser les cœurs ce matin. Que le Seigneur puisse guérir ce matin. Tout comme cette femme, 18 ans de souffrance. Veux-tu que ça continue à perdurer ? Aujourd'hui même, le Seigneur enlève tes fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu est capable de briser les verrous les plus lourds. Il est là présent, et il te demande de déposer, alléluia, tes fardeaux, déposer tes peines, tes souffrances, ta culpabilité, aujourd'hui même, va cesser dans le nom de Jésus. Amen.